Bonjour à tous, merci Junior pour cette introduction. Nous sommes bénis ce matin par votre présence, par ceux qui nous rendent visite, ceux qui sont là pour la première fois, sentez-vous accueillis. Nous sommes dans la présence du Seigneur, nous sommes invités par lui et nous voulons l'honorer. Poursuivre notre louange, cette fois-ci, nous allons réfléchir ensemble et nous allons méditer dans la lettre aux Philippiens. Nous lirons au chapitre 1er, les versets 1 à 11. Et le titre du message, c'est « Habité par Christ, discernons l'essentiel ». Avant la lecture, j'ai une question à vous soumettre et chacun pourra réfléchir tranquillement. Comment vous comportez-vous quand vous êtes loin des personnes que vous aimez? Quand vous allez en voyage, comment est-ce que vous vous comportez? Qu'est-ce que vous faites par rapport à ceux qui sont restés? Nous sommes dans cette société globalisée avec une certaine facilité de communication et aujourd'hui, nous utilisons assez fréquemment nos téléphones. C'est le 21 juillet et s'il y en a quelques-uns parmi nous qui iront au défilé, je parie qu'ils vont faire des photos et qu'ils vont les mettre soit sur leur mur, soit les envoyer à leurs amis en disant « Regarde où je me trouve ». Figurez-vous que dans l'Antiquité, on communiquait aussi. On n'avait pas les smartphones, mais on avait autre chose. On utilisait des tablettes d'argile. Parfois, c'était du cuir, des animaux, des papyrus, pour écrire. À l'époque, on écrivait plus qu'aujourd'hui. Et l'apôtre Paul utilisait visiblement des parchemins. Et c'est ce que l'on retrouve quand on lit la lettre à Timothée, 2 Timothée 4, verset 13. Paul demande à Timothée de lui ramener des livres et surtout les parchemins. Et à l'aide de ces parchemins, Paul pouvait donner des nouvelles aux différentes églises qu'il avait implantées. Et c'était aussi l'occasion de donner des nouvelles aux églises, de ses compagnons de travail et du travail qui était accompli. Alors, je nous invite maintenant à lire cet extrait de ce que l'apôtre Paul adresse à l'église de Philippe. Philippiens 1, verset 1, « De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Aux responsables et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense cela de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur. Vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Paul, donc, se trouve en prison. Comme nous le voyons verset 7. Il est à Rome et il a reçu les dons des frères de l'église de Philippe. Et il souhaite leur dire merci. Il commence sa lettre par des salutations. C'était de cette façon-là qu'on écrivait à l'époque. Il transmet ses salutations à l'église. Et on se rend compte que vraiment c'est une église qui est établie. On y trouve des saints, c'est-à-dire des fidèles, comme la plupart dans cette salle. On y a aussi des responsables et des diacres. Et après ces salutations, comme un réflexe, Paul libère ce qui est dans son cœur. Et ses lecteurs peuvent imaginer sans ambiguïté dans quel état d'esprit il se trouve au moment de rédiger cette lettre. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 6, le verset 45, on lit, je cite, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. » De quoi est plein le cœur de Paul? Et nous découvrons un homme rempli de son Dieu. Il entretient avec l'Éternel un lien particulier, au point de dire « mon Dieu ». Paul nous exprime l'affection qu'il a pour le Seigneur. On se croirait dans une relation exclusive. Ce Dieu, pourtant, est aussi le Dieu des Philippiens. Mais cette appropriation de Paul caractérise un lien profond, une intimité entre lui et son Dieu. Lorsqu'on lit cette phrase « Je dis à mon Dieu », on comprend tout de suite qu'il y a quelque chose de particulier dans ce lien. Ne voudriez-vous pas ressentir une telle proximité, une telle intimité avec le Seigneur? Une telle fluidité dans votre relation avec Dieu? Pour que vous puissiez dire avec aisance, « mon Dieu ». On n'a pas ici le sentiment d'une vulgarité ou d'un quelconque copinage, comme on peut parfois l'entendre de la bouche des chrétiens. La parole de Paul reste courtoise. Il y a du respect, mais il y a surtout de l'amour. Et c'est dans cet élan-là, cet élan d'amour, qu'il prononce ces mots « mon Dieu ». La relation qui unit Dieu à Paul se vit dans la prière. Il parle à Dieu à travers la prière. On a affaire à un homme dont la vie est prière, prière ordonnée. Il a un temps de prière selon les personnes. Concernant les Philippiens, Paul est dans une dynamique positive. Cette église lui procure de la joie. Quand il pense aux fidèles de Philippe, il bénit l'Éternel. C'est la reconnaissance qui monte vers l'Éternel. Et Paul a probablement en tête les liens qu'il a tissés avec ses croyants. Peut-être qu'à ce moment-là, il se souvient de Lydie. Quand il est arrivé, Lydie est celle qu'il a accueillie sur cette plage et qu'il a invitée tout de suite chez elle. Et nous lisons cela en Actes 16, versets 13 à 15. Lydie manifeste de la générosité et de l'hospitalité vis-à-vis de cet homme qu'elle ne connaît pas, mais elle a entendu. Paul peut-être aussi se souvient de cette jeune servante possédée par un démon qui constituait une source de revenus pour ses maîtres et dont il a libéré. Et vous vous souvenez que Paul a été en prison à cause de cela. Paul se souvient peut-être aussi de l'adieu émouvant qu'il a reçu de la part des Philippiens, toujours chez Lydie. De nombreux souvenirs en somme mais peut-être aussi des retours qui lui viennent de l'église de Philippe, de la manière dont les Philippiens vivent l'évangile après lui. Il n'y a pas eu de baisse de régime dans cette église de Philippe. Elle a continué de vivre selon l'évangile reçu de l'apôtre Paul. Elle a maintenu la flamme allumée. Et Paul le souligne. Ce qui fait sa joie, c'est la part que prennent les Philippiens à l'évangile. Et puis Paul nous décrit cette église. Il nous donne les caractéristiques de cette église de Philippe. Les Philippiens ne sont pas des gens qui regardent passivement les autres au travail. Ils prennent part au travail qu'il y a à accomplir depuis le premier jour jusqu'à maintenant, dit l'apôtre Paul. Nous ne savons pas combien de temps cela a duré. Ce qui est certain, c'est que l'engagement de cette église à marcher selon le Seigneur reste une vérité. Et cette vérité, elle est proclamée. Et je voudrais revenir à l'introduction de Paul dans sa lettre. Il s'adresse à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres. Qui donc prend part à cet évangile dans l'Église? Ce sont bien toutes les personnes qu'il a citées. Nous sommes face à une communauté qui a compris que le travail à réaliser n'est pas l'affaire d'une personne ou de quelques personnes. Elle est l'affaire de tous. Les responsables chargés de l'organisation, du bon fonctionnement de l'Église, mais aussi chacun dans l'Église qui prend part à cet évangile. Les fidèles assument avec joie les tâches qui leur sont confiées. On se retrouve un peu comme dans une ruche d'abeilles. Vous savez que les abeilles sont comme une société. Dans cette société, chacune a une fonction particulière. Et chacune de ces abeilles joue son rôle selon ses compétences et de manière complète. Au point que nous, en tant qu'humains, nous voyons le résultat de ce travail ensemble. Et cela nous fait plaisir à notre palais, n'est-ce pas ? Quand nous mangeons le miel qui vient d'une ruche, cela est tellement agréable. Paul parle d'un projet, il parle de l'évangile qui est annoncé. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il ne met personne en avant. Tous travaillent pour la cause de l'évangile. Et à travers ces paroles, c'est un rappel à ce qu'est une église. L'église, c'est un ensemble de personnes qui portent toutes un projet, le même projet. Et Paul ne parle de rien d'autre. Dans son élan de reconnaissance, ce qui lui vient à cœur, c'est l'évangile. Pendant combien de temps faut-il porter ce projet ? Concernant l'église de Philippe, l'apôtre Paul dit « jusqu'à ce jour, ils sont restés actifs ». Quand on lit les lettres de Paul, on se rend compte qu'à Thessalonique, les chrétiens semblaient impatients au sujet du retour de Christ. Quand est-ce qu'il viendra ? Et quand ils voyaient leurs compagnons mourir, ils se disaient « mais quand est-ce que ça va se faire ? Nous voulons déjà voir le Seigneur revenir ». Et Paul doit les rassurer en leur disant « il n'y aura pas de favoritisme, tous nous verrons le Seigneur quand il reviendra ». Les Philippiens semblent beaucoup plus apaisés par rapport à cette question. Ils sont au travail. C'est vrai qu'en général, quand on travaille, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Surtout quand on a du plaisir à faire ce qu'on est en train de faire. On ne se pose pas d'autres questions. On fait le travail qu'on a à faire. On est appliqué, on est impliqué. Et c'est ce que nous voyons dans cette église de Philippe. Ils sont impliqués dans la tâche. Paul ne donne pas des détails sur ce qu'ils sont en train de faire. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de changement d'orientation. Paul a annoncé l'évangile, cet évangile continue d'être annoncé. C'est la tâche à réaliser. Nous voyons une Église qui est en mission. La raison d'être de l'Église, c'est l'annonce de l'Évangile. Il faut parfois déplorer que la tâche d'annonce de l'Évangile soit reléguée au second plan dans certaines Églises. Au point que dans l'Église, ce qui préoccupe les uns et les autres, c'est des fonctions administratives. Comment on va gérer la technique? Il faut acheter ceci, il faut acheter cela. On est occupé à des choses qui sont tout à fait secondaires. Oubliant que si nous ne faisons pas de l'évangélisation, à court ou à moyen terme, l'Église mourra. Parce que si on ne fait pas de l'évangélisation, ben, qui viendra dans l'Église? Ceux qui sont là verront le temps s'écouler et ils s'en iront comme beaucoup. Et qui restera alors dans l'Église? Souvenons-nous qu'avec Adam, le monde s'est trouvé corrompu. La mort est entrée et elle a mis l'œuvre du Seigneur à mal. La liberté que le Seigneur a donnée à l'homme l'a poussé à faire un mauvais choix. Et donc, nous naissons dans le péché. David déclare au psaume 51, le verset 7, je cite, « Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. » Alors, je ne veux pas ouvrir ici un débat avec les gens qui pensent que les enfants qui meurent iront au ciel parce qu'ils n'ont jamais commis de péché. Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment de nous rappeler que le péché est là. Il est en nous, dès la conception. Et il est important que nous puissions en sortir. Et le Seigneur a conçu un projet pour que nous en sortions. Et ce projet, c'est cette bonne nouvelle que les Philippiens continuent d'annoncer, même en l'absence de Paul. Alors, je parlais tout à l'heure de la liberté que Dieu nous a octroyée, la liberté que Dieu nous a donnée de choisir. Adam l'avait, cette liberté, et il a choisi. Nous aussi, nous avons cette liberté de choisir. Dieu, dans sa bonté, ne l'a pas enlevé. Après Adam, après la perte de la communion avec Dieu, dans son amour, le projet de salut a été activé. Dieu a souhaité la réconciliation avec l'homme, et c'est ce que Christ est venu accomplir. Il a fallu nous libérer de l'esclavage du péché. Il a fallu nous habiller de vêtements nouveaux, plus les vêtements d'Adam et Ève, ces vêtements qui cachaient leur honte, mais les vêtements de la justice dont Christ nous rêvait désormais. À présent, c'est à toi en tant qu'humain de faire un choix éclairé, un choix en toute liberté. L'homme doit être informé de l'existence de cette offre. C'est pour cela que l'Église est dans le monde. Pour informer les hommes qu'ils ont un choix à faire. L'Église, par essence, est mission. Ce n'est pas la mission dans les murs ici. C'est la mission hors de ces murs. Autrement dit, la mission qui est celle de tout chrétien dans cette salle, elle ne se déroule pas dans cette salle. Elle a lieu quand vous êtes sorti, quand vous êtes église dispersée. Le chrétien, les chrétiens se retrouvent le dimanche pour être ressourcés, pour recevoir de Christ, afin d'aller dans le monde. Et ce monde, ce n'est pas seulement dans la rue, dans le bus, dans le métro. Ce monde, c'est parfois dans la famille, parmi les collègues, parmi nos amis. C'est parfois triste d'entendre les chrétiens dire « Moi, je n'ai aucun ami non chrétien. » Ah bon? Mais à qui tu parles donc de l'Évangile? C'est ça ta première mission en tant que chrétien, de dire l'Évangile, d'annoncer l'Évangile, parce que ce monde est perdu. Dieu t'a placé là où tu es pour faire, pour remplir cette mission. Alors notre contexte est différent de celui de l'apôtre Paul, où on parlait de l'Évangile en pleine rue. Mais nous ne vivons pas dans la rue. Nous avons la grâce d'avoir des logements. Nous avons la grâce d'avoir des voisins. Même si nous sommes seuls, nous avons des voisins avec qui nous pouvons parler de l'Évangile. C'est dommage que parfois dans l'Église, les gens se disputent pour avoir des postes. Ah, moi je veux être ceci, je veux faire cela, il faut que je sois ici. Est-ce que c'est ça la mission que Christ te confie? Ta mission n'est pas dans les murs. Ta mission, elle est hors des murs. Sortez des murs et allez dans le monde. Parlez de Christ, comme ces Philippiens le faisaient, comme ces Philippiens l'ont annoncé. Et Paul est dans la joie parce que les Philippiens ont saisi ce qui est essentiel. Nous n'avons pas une obligation de résultat en tant que chrétiens. Nous avons une obligation des moyens que le Seigneur nous a donnés. Et le Seigneur nous a dotés, chacun de nous, d'intelligence. Nous sommes dans un monde où nous savons lire, pour la plupart. Nous savons lire la parole de Dieu. Le Seigneur nous a donné des enseignants pour nous enseigner cette parole, pour que nous puissions la partager avec d'autres. Hélas, souvent, la soif de partager l'Évangile a disparu. Nos cœurs ne sont même plus convaincus que c'est ce que nous devons faire. Cette soif, nous devons la demander au Seigneur, parce que c'est ce qu'il nous a donné. Cette soif, ou cette mission que le Seigneur nous donne, elle nous est octroyée dès le jour où nous acceptons le Christ. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué les nouveaux convertis. Comment ils se comportent? C'est extraordinaire. Ils veulent faire partager le bonheur qu'ils ont en eux aux autres. Ils ne comprennent pas comment est-ce qu'on peut vivre sans connaître le Seigneur. Ils ont envie de saisir qui est Christ. Et ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Parfois, on a besoin de dire, calme-toi. On est passé par là, tu sais. Mais c'est tellement agréable de savoir que cette flamme que le Seigneur place en eux, elle reste vivante. Et cela questionne ceux parmi nous qui sont dans la foi depuis déjà si longtemps. Certains, peut-être, sont déçus de l'Église. Certains se disent, j'ai essayé de faire des choses dans l'Église. On ne m'a jamais donné l'opportunité de faire ceci ou cela. Levons les yeux vers le Christ et demandons-lui de nous montrer à qui ou avec qui nous pouvons partager l'Évangile. Il y a tant à faire. Il y a tant à faire que de vouloir se limiter à ce qui se fait dans ces petits murs. Le Seigneur vous a confié une mission extraordinaire. J'ai connu une dame, il y a quelques années, elle est décédée maintenant, qui faisait de l'évangélisation dans son lit de malade. C'était extraordinaire. Quand j'allais lui rendre visite, elle m'évangélisait. Et c'était terrible, parce que dans le service, quand vous arriviez, les infirmiers, le corps médical ne vous parlaient que de cette dame. Elle savait qu'elle était en train de mourir. Elle était sur la pente descendante. Mais qu'est-ce qu'elle rayonnait quand il était question de parler de l'Évangile? Pour beaucoup parmi nous, nous avons encore nos moyens physiques. Nous avons notre intelligence. Nous avons la santé. Et pourtant, nous nous taisons. nous ne disons rien. Nous regardons les autres comme si c'était normal. Nous n'avons pas cette vision de Christ qui avait cette passion pour les âmes. Ce travail qui était réalisé dans l'église de Philippe. Et Paul a une prière pour les Philippiens. C'est l'amour qui est au cœur de la prière de Paul. Paul fait appel à ce qu'il y a de plus cher dans la foi, l'amour, c'est-à-dire Christ. C'est Christ dans le cœur de Paul qui suscite cet intérêt pour les autres. Christ dans le cœur des Philippiens doit être de mieux en mieux reconnu comme Sauveur et Seigneur. Lorsque vous vous trouvez embourbé dans les difficultés, vous avez essayé toutes sortes de solutions, il n'y a pas de solution. Et peut-être que la seule chose qui reste, c'est d'attendre la fin, votre fin. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui vient et qui vous dit, j'ai une solution à ton problème. La voici. Quelle que soit la dureté de votre cœur, vous lui direz, ne serait-ce que merci. Et si vous êtes d'un élan différent, vous aurez envie de rendre en retour le bien qu'il vous aura fait. Paul souhaite que les Philippiens, par amour pour Christ, soient capables de plus en plus de discernement. Ils sont engagés dans une œuvre extraordinaire, l'œuvre de Dieu, une entreprise divine. Ce ne sont pas les hommes qui ont décidé de sauver leurs semblables. C'est Dieu qui a pris cette décision par amour pour l'homme. Et il le convie à venir avec lui dans cette mission. Si vous êtes informaticien et que votre téléphone sonne et qu'on vous dise « c'est Mark Zuckerberg au téléphone, je voudrais t'engager dans mon entreprise Meta ». Je crois que même si vous ne parlez pas anglais, peut-être votre langue va se délier. Hein? Si vous êtes technicien de surface et qu'on vous dise « le roi de Belgique, le roi des Belges et la reine ont besoin que vous soyez à leur service exclusivement », vous allez dire « je laisse tout tomber, je vais faire ce job-là ». Parce que vous êtes mis à l'honneur. Parce que c'est un honneur pour vous de servir ce genre de personnes. C'est un honneur de travailler dans une telle boîte. Ce qui est extraordinaire, c'est que Christ vous appelle à travailler avec lui. Et quelle est votre réponse? Le silence? Elle est où cette flamme pour lui? Paul souhaite que les Philippiens soient à même de connaître le boss, le Christ. C'est cela l'essentiel. C'est Christ qui œuvre en nous par l'Esprit. Il est capable de nous orienter différemment de ce que nous avions pensé être sage. L'aptitude au discernement vient de la connaissance que nous avons du Seigneur, le Christ. Christ est celui qui purifie nos cœurs. David, dans le psaume que j'ai cité tout à l'heure, crie au Seigneur en disant « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Ce que veut Christ, c'est ton cœur. S'il est touché, il sera attentif à rentrer dans le projet, dans ce projet divin. À rentrer dans ce projet sans calcul ni intérêt, uniquement par amour pour Christ et par amour pour ceux qui sont autour de toi, ceux qui sont perdus dans leur péché. Un amour sincère, un amour pour la mission. Au jour du Christ, dit l'apôtre Paul, vous serez purs et irréprochable, rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Et vous aurez constaté que la boucle est bouclée. Elle commence avec Christ, elle se termine avec Christ. Il est le commencement et la fin. C'est lui qui initie cette œuvre de salut et elle se referme sur lui. Autrement dit, Christ doit être au cœur de tes préoccupations. Pour nous résumer ce matin, nous avons vu qu'il y a un homme qui s'appelle Paul, qui entretient une relation extraordinaire avec son Dieu. Cette intimité est si forte qu'elle le pousse à se préoccuper des autres. Et dans cette dynamique, il entraîne les Philippiens avec lui. Et ce lien qui les unit, qui unit Paul aux Philippiens, est ce lien établi par Christ, ce lien d'amour. Par Jésus, les Philippiens ont découvert cet amour et ils ont compris l'urgence de partager avec d'autres autour d'eux. Paul bénit le Seigneur pour tout ce qu'il a réalisé et il prie pour que les Philippiens restent zélés, qu'ils gardent cet engagement permanent. Il prie surtout pour que cette relation à Christ reste étroite. Christ veut forger l'homme spirituel qui est en vous. Il veut vous rendre sensible à ce qui est important, ce qui est essentiel. Christ veut construire cet être spirituel apte à discerner pour propager, pour annoncer le salut. Comme croyants en Christ, nous sommes cooptés dans la mission pour le salut des âmes. C'est une mission noble, digne d'intérêt. Que notre cœur soit touché par cette prière de l'apôtre Paul à la gloire de Dieu. Si de tout ce que j'ai raconté ce matin, vous n'avez rien compris et que vous n'avez peut-être pas entendu, gardez au moins cette prière. Dites « Seigneur, viens habiter mon cœur afin que je serve la cause ».